Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et vous êtes bien sûr Divergence FM 93.9 et c'est Lecture par tous. Bonjour à tous et surtout bonjour à mon invité Michel Arbatz.
Bonjour.
Bonjour Michel. Alors Michel Arbatz, comment on peut le présenter? Moi j'ai envie de dire Michel Arbatz c'est un jongleur de mots. Il jongle avec les mots qu'il écrit, avec les mots qu'il dit, avec les mots qu'il chante. Il jongle avec la poésie, il enregistre des musiques avec des chansons littéraires en diable. Alors, Michel Arbatz, comment c'est venu, on pourrait dire, on va faire comme ça, cette passion des mots mise en musique, mise en voix, mise en tout ce qu'on voudra, mise sur scène aussi?
Alors, je pense que c'est très ancien. Je pense que ça vient de la petite enfance parce que mes parents étaient immigrés. Hein, ils venaient d'Afrique du Nord, de Tunisie. Et donc, j'ai été élevé dans une période où, pour eux, la bonne intégration, ça se faisait en apprenant bien le français et en apprenant surtout pas d'autres langues. Et donc, j'ai quand même été baigné dans la musique de l'arabe. Que mes parents parlaient entre eux, évidemment en pensant que je ne devais pas l'apprendre, et dans l'obsession de bien parler français. Quoi. Il y avait un petit peu. Je parle de ça maintenant avec le recul, parce que, évidemment, l'enfant ne se souciait pas du tout de ces questions-là, mais je me souviens du plaisir que j'avais à lire et à prononcer des mots. Il y avait quelque chose de buccal, un plaisir de la bouche. Quoi, hein, et je me souviens du premier mot que j'ai lu. C'était un mot assez compliqué, qui n'était pas destiné à notre classe d'ailleurs. C'était le cours des grands, et il y avait Courtilière qui était écrit sur le tableau. Et j'avais lu ce mot en entier, je l'avais dit, et je me souviens de l'étonnement de la maîtresse. Quoi. Et donc, il y avait quelque chose là-dedans à la fois de la conquête. Il y avait la conquête dans le double sens, la conquête du langage, et puis la conquête aussi de l'adulte, certainement. Comme tous les petits-enfants, je devais être un peu amoureux de cette maîtresse. Quoi, et ça, voilà.
Il fallait l'impressionner.
Il fallait l'impressionner. Je pense que ça, en fait, après, ça n'a fait que se développer. Puis je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient mélomanes. Donc on écoutait beaucoup de musique à la maison, de la chanson, mais aussi de la musique classique, des chants populaires, enfin toutes sortes de choses. Voilà. Alors, est-ce que je pense avoir répondu en gros à la question?
Oui, oui, oui. Ah ben, tout à fait, tout à fait. En écoutant, ça me faisait penser à certains propos de Roland Barthes qui disait qui parlait de cette jouissance justement, on dit quand on parle,
c'est tous les
organes phonatoires, ça c'est comme une manducation, on mâche la
on
parole,
mâche, on
voilà.
Rumine les textes dans la bouche,
c'est ça. Et puis je crois aussi qu'il a écrit quelque part le sens, ça se prononce.
Oui, et ça a continué. Après j'ai eu la chance d'avoir un professeur, donc là ça rejoint un petit peu l'actualité, puisque c'était le dernier livre que j'ai sorti, c'est une correspondance avec ce prof que j'ai eu la chance d'avoir au lycée. Enfin, je l'ai eu 2 années de suite, je crois que c'était en troisième et en seconde, ou en quatrième et en troisième, ni l'un ni l'autre ne s'en souvient exactement, mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui nous poussait à apprendre par cœur des textes, qui avait monté un groupe théâtral dans le lycée, et donc j'ai commencé à faire du théâtre, et là c'était une autre manière aussi de d'ailleurs j'ai fait un premier, on appelait ça des récitals de poésie à l'époque.
D'accord.
Avec un camarade de classe, et on a monté ensemble un petit répertoire, on devait avoir 14 ou 15 ans, dans lequel il y avait du Desnos, du Éluard.
Desnos était déjà là.
Oui, Desnos était déjà là, du Miloche, du Prévert, je me souviens, Aragon aussi. J'ai retrouvé chez mon père, c'était pas des tracts à l'époque, c'était des, je sais pas comment on faisait ça, des stencils, on faisait ça avec des stèles,
oui, les stencils,
des rodéos à alcool. On avait fait le programme de ce truc-là, et j'ai même un enregistrement. D'ailleurs, je ne reconnais pas ma voix qui venait de muer, qui était très étrange. 10 ans, je ne sais plus quel texte. Donc ça, c'est... Et alors, bon, ce professeur, il s'appelait Michel Monory. C'était un homme d'une très grande élégance et de très grande culture et qui nous incitait à apprendre par cœur. C'est par lui que j'ai appris pour la première fois la Ballade des Pendus, qui a été un texte fondateur pour moi. Et aussi, à l'époque, il me prêtait tout ce que je voulais. On a eu un rapport très, très proche, presque filial, je dirais. J'allais souvent le week-end chez lui. Enfin, il était jeune marié. Et d'ailleurs, sa femme était ma prof de dessin. Donc, c'était très drôle. C'était une histoire qui s'était faite sous mes yeux, quasiment. Et puis, il me prêtait tout ce que je voulais dans sa bibliothèque, quoi. Je pouvais emmener tout ce que je voulais. J'avais une passion à l'époque pour Antonin Artaud. Et alors, cette petite anecdote, pour vous dire, on ne s'est plus vu, on s'est perdu de vue pendant 40 ans avec ce professeur. Et on s'est cherché. On s'est cherché pendant 40 ans parce qu'il était parti, lui, en Grèce, à l'Institut français d'Athènes. Il avait demandé ce poste. Moi, j'ai essayé de le retrouver, impossible. Et puis, c'était 68. Mais 68, je suis parti dans d'autres aventures. J'ai pris un pseudonyme, puisqu'Arbat, c'est un pseudonyme. Donc, il m'a beaucoup cherché, mais il ne m'a pas trouvé. Et moi non plus. Et puis, quelques années avant sa mort, il y a 7 ou 8 ans... Il a fait signe par Internet comme quoi il cherchait ses anciens élèves. Et un camarade de classe avec qui j'avais gardé contact m'a signalé, m'a dit « Tiens, tu te souviens ?» Évidemment que je m'en souvenais, j'avais passé 40 ans à le chercher, lui aussi. On s'est retrouvés, donc lui, il avait fait tout un parcours dans des centres culturels français à l'étranger. Il était au départ simple lecteur, puis directeur à Turin, puis à Londres. Il a fini à Londres. Et comme il me disait qu'il regrettait, il me disait « j'aurais pu te faire passer dans tous ces endroits », etc. Je lui dis « écoute, n'ayons pas de regrets, racontons-nous nos vies ». Et c'est comme ça que ça a commencé. On a échangé une très longue correspondance manuscrite, mail. On correspondait aussi par mail et par téléphone, mais on avait réservé l'écriture à la main pour nous raconter nos vies. Et donc, ça a donné un énorme paquet de lettres, des lettres parfois qui faisaient plus de 20 pages ou 30 pages. Et puis, j'ai montré ça à une amie à qui j'en avais parlé par curiosité et qui était dans l'édition, qui m'a dit « mais il faut faire quelque chose avec ça ». Et donc, cette correspondance qui n'était pas destinée à être un livre est devenue finalement un livre qui s'appelle « C'est le cœur qui est grec », qui est publié autant qu'il fait, enfin que j'ai sorti au tout début de l'année.
Voilà, donc un livre qu'on encourage nos auditeurs. Là, je crois que ce que tu en dis, en tout cas, donne très envie. Hein.
Alors bon, c'est truffé évidemment d'anecdotes, parce que bon, je n'ai pas raconté le contenu, j'ai raconté les prémices de ce livre. Alors évidemment, lui raconte toutes ses aventures en Grèce, puis à Turin. Et en Grèce, il faut dire qu'en plus, c'était 6 mois après son arrivée en Grèce, c'était les colonels qui prenaient le pouvoir. Donc il a réussi...
Oui, donc un contexte historique
assez tendu, mais en même temps dans lequel il a réussi à faire des choses extraordinaires. Il a fait venir Piccoli... j'ai oublié le nom de ce metteur en scène très très connu, qui était... il faut que je le retrouve... Je le cherchais cette nuit, mais bon, je vais le retrouver, ça reviendra. Ça reviendra. Il y a un moment où la disquette commence à être un peu pleine, et le temps que ça charge.
Avoir quelques petits bugs.
Voilà.
Ouais. Alors, c'est pas le premier livre, hein. il y en a d'autres.
C'est le 11e.
Onzième, voilà.
Ouais, ouais. Hein.
Alors, des livres qui vont du guide pour ceux qui écrivent des chansons, je
le
pense.
Le Moulin du Parolier, qui est un livre qui fait référence un peu maintenant, qui a eu quatre éditions successives, et puis qui est paru il y a 20 ans pour la première fois, mais la dernière date de quelques années. Voilà, qui a été remise, et pareil, qui a été réédité par Le Temps qu'il fait, qui est mon éditeur principal. Et ça, c'est un livre qui fait référence un peu, quoi. C'est un guide pratique pour écrire des chansons, puisque je pratique aussi des ateliers d'écriture.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Sur la chanson, mais aussi hors de la chanson. Mais la chanson est un petit peu, pour moi, une sorte de... je pense que si quelqu'un qui sait bien écrire une chanson peut tout écrire, parce que c'est un genre finalement très difficile. C'est un genre à la fois populaire, c'est-à-dire tout le monde aime bien, on est imprégné par ça. Mais en même temps, c'est un genre très exigeant, puisqu'il faut tout dire en 3 minutes, voilà.
Oui,
c'est une école de concision, voilà, il faut d'économie.
Vous nous faites l'Odyssée d'Homère, mais vous avez
2 minutes 30 pour le faire. et voilà. Donc ça apprend beaucoup de choses. Et puis bon, c'est très contraignant aussi du point de vue de la forme, les rimes, la prosodie, le rythme, le mariage entre le rythme du texte et le rythme de la musique. Enfin, il y a tout un faisceau de contraintes qui sont très très intéressantes. Et finalement, quand on sait faire ça, ben c'est une école pour tout, parce que on apprend à dire avec peu, mieux avec peu.
Et faut savoir connaître la concision et laisser quand même de la place au silence aussi. Les silences ont leur importance dans une chanson.
Oui, les silences, la répétition aussi, c'est-à-dire la répétition qui n'est pas la même chose que le pléonasme. C'est-à-dire on peut la chanson aime bien répéter. Elle aime bien répéter à l'identique.
Oui, refrain et couplet.
Voilà, et il faut choisir qu'est-ce qui est important à répéter.
Qu'est-ce qui est important à répéter ? Alors, il y a un auteur qui est important pour toi, on l'a déjà évoqué, Robert Desnos, hein, qui a accompagné une carrière de chanson, on peut dire, hein. Et de spectacle.
Oui,
il n'est pas le seul.
Non, il n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il y a une fidélité. Et puis, de toute façon, enfin, je pense que c'est ça. D'abord, c'est un homme l'homme est aussi intéressant que le poète. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très droit dans cet homme, de très courageux, d'ailleurs. Je crois que ça va se confirmer, mais au mois de mars, je vais faire quelque chose ici à Montpellier, à l'invitation d'un comité de quartier. Comme le thème du Printemps des Poètes, c'est le courage, ils m'ont invité en disant « Tiens, on voudrait que tu nous parles de Desnos, parce que pour nous, le courage, c'est Desnos. » Et effectivement, Desnos a été un homme courageux dans différentes circonstances, mais aussi dans les circonstances les plus difficiles, c'est-à-dire pendant la guerre, la résistance. Il a été arrêté comme résistant et il est mort comme résistant en déportation. Mais il avait quelque chose... Enfin, moi, j'étais très attiré par les surréalistes, là, quand j'étais lycéen. Et il avait quelque chose qui était peu courant chez eux, c'était l'humour. C'est-à-dire qu'il y avait il y a un côté furieux, fantaisiste, mais aussi humoristique. Il y a ces trois veines-là, et ça, c'est assez rare, parce que furieux, ils le sont tous. Mais par contre, l'humour, c'était pas... fantaisie n'était pas toujours au rendez-vous.
Et puis, c'est quelqu'un qui cherchait pas à faire du grand art. Hein. Je crois qu'il a même écrit pour la radio, pour des pubs et
absolument,
des choses comme ça. Ce qu'on appelait à l'époque la réclame.
La réclame. Il a même gagné sa vie comme publicitaire. On pourrait dire, le mot n'existait pas à l'époque.
Ouais,
mais il avait été convoqué, d'ailleurs, par Paul Deharme, qui était un type très cultivé, féru de psychanalyse, dont la femme, d'ailleurs, Lise Deharme, a écrit pas mal de romans. Et Desnos a été... Deharme a senti dans Desnos la fantaisie, l'énergie aussi, parce qu'il avait une énergie vocale formidable. Il nous reste juste une petite bande de Desnos, très courte. Il y a 3 minutes où il raconte un rêve, et on entend dans cette voix une grande énergie. Et puis, il avait l'humour. Alors, il a commencé le premier, effectivement, c'est lui qui a fait des pubs sur le vermifuge lune, la Marie-Rose, la mort lente des poux. Voilà, tout ça se faisait un petit peu en famille. Et Desnos aimait beaucoup tout ce qui était populaire. Et la chanson aussi, évidemment. Il a écrit d'ailleurs des chansons. Il était amoureux d'Yvonne Georges, qui était une grande chanteuse d'avant-guerre. Il était toujours fasciné par la chanson, par le côté des romances populaires, les contes populaires, etc.
Alors, on parle de chansons. On va écouter une de tes chansons.
Alors,
tu nous expliqueras après.
D'accord, c'est plutôt un poème, mais enfin... Au Luxembourg, dans l'odeur de vanille, où je m'hypnotisais au brillant des marrons, jaillis des bogues à l'automne en colonie, comme la chenille, je gambergeais pour de bon, à mater les corps féminins dépoitraillés, des statues côtoyant les caissons de jardin, qui pointaient en chassant leurs seins de lait caillé et m'allumaient comme des lampes d'Aladin. Pourquoi ces pots de pierre, et non pas la chaisière
qui venait réclamer avec Tiquet son dû, le balcon pigeonnant sanglé dans sa brassière, quand les autres affichaient hors des drapés leur cul. Ces grandes dames, elles fixaient dans le lointain vers le Sénat des regards blancs de chasseresse, un chien en laisse, arc à l'épaule et l'air hautain, sans s'émouvoir que je fixe sans fin leurs fesses. Quelle loi secrète interdisait aux vivants, aux vivantes plutôt, de montrer leurs secrets? Mais parfois venait le spectacle captivant d'une mère allaitant son nourrisson au gré d'un bon soleil, et du coup j'allais voir de près. Tu me rappelais à l'ordre, incompréhensible. Pourquoi ne pas regarder ce melon dévoré par le petit avalant à plaisir la cible? Tu te fermais. Le chahut autour reprenait ses droits. J'allais vider mon trop-plein de questions dans le bassin central, désœuvré. J'amenais vers le bord des algues verdâtres en suspension sur mon bâton. Car les voiliers en location étaient trop chers. Puis je revenais à mes chers marrons, que je sortais luisant de leur cocon, caressant longuement leur peau comme une chair, en insistant sur le duvet blanc de la pointe, et fomentant de méchants rêves d'assassins.
C'est Lecture Partout, c'est vous êtes sur Divergence FM. Alors, ce que nous venons d'entendre, c'est Michel Arbatz au Luxembourg, c'est bien ça?
Voilà, oui, c'est un titre qui est extrait de mon prochain disque, qui n'est pas encore paru, qui va apparaître d'ici un mois. Et c'est un disque qui s'appelle Mai 68, mais Mai, ça s'écrit M-E-S, Mai 68, et c'est un disque un petit peu autobiographique, enfin, même beaucoup autobiographique. Enfin, c'est la première fois que je me livre à cet exercice, mais il n'y a pas que ça, évidemment, puis il y a toujours une distance, évidemment, avec la matière de soi-même. Mais ça, c'est extrait d'un recueil aussi à venir, qui n'est pas publié, de poèmes sur la petite enfance, ou en tout cas, de poèmes de souvenirs de l'enfant avec sa mère, voilà. Et donc, c'est la première fois, enfin, c'est rare que je mette des textes, mais là, bon, dans l'idée de ce CD, il y a 3 textes comme ça, parmi les 13 titres. Et la musique est celle de... Et c'est mon professeur de bandoneon, celui qui m'a initié au bandoneon, c'est Juan José Mussolini, qui joue derrière moi et qui joue un morceau de Daniel Binelli, qui s'appelle Paris desde aquí.
Voilà, alors, ben, c'est un climat... Comme tu sais, les planter, j'ai envie de dire, en musique et en mots et en musique, hein, ça fait quand même... alors, les disques, là, puisqu'on parle de disques, hein, on a parlé de livres tout à l'heure, là, on parle des disques. Donc, ce disque, il va paraître à peu près quand?
Ah ben, il paraît, en principe, le 22 novembre. Voilà.
22 novembre.
Mais donc, il est en souscription, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter dès maintenant. J'ai lancé une souscription, puisque, bon, si on parle un peu de l'économie du disque, tout le monde sait qu'elle n'est pas très bien portante.
C'est un peu difficile,
voilà,
oui.
Et que finalement, enfin, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours cru à Small is Beautiful, que je pense à l'importance, à la dynamique qu'il y a entre les réseaux et les créateurs. Je pense que c'est très important. Je l'ai fait depuis le début. J'ai toujours je demande aux gens de laisser un contact, une adresse mail, etc. Et j'ai un certain nombre de fidèles qui ont permis et à ma compagnie et à mes propres productions de survivre, quoi, et de traverser presque plus de 40 ans d'activité. C'est très important, ça. Et puis ça responsabilise les gens aussi par rapport à la consommation de culture, comme on dit, quoi. C'est pas que de la consommation, il faut aussi
de dire consommation et culture, enfin, voilà, associer les deux termes, ça fait toujours un peu bizarre.
Oui,
mais l'espèce d'oxymore.
Mais c'est quand même la réalité des choses, c'est-à-dire on est noyé par ça, on est noyé par le mainstream, par le streaming, toutes ces inventions récentes, finalement, qui sont aussi dispendieuses, finalement, aussi en énergie et qui ne rapproche pas de les créateurs et le public.
Voilà, donc pour la souscription, on va quand même le signaler. Hein.
Il suffit d'aller sur
Vous allez sur le site michelarbatz.com.
Voilà, et puis
vous aurez tous les détails.
C'est sur la page d'entrée, je crois, il doit y avoir un lien pour télécharger.
Voilà, et donc il y a ce disque à venir, et puis. J'ai envie de dire, Michel Arbat, c'est une œuvre avec un coffret avec les 6 CD que tu as sortis au fil des années.
Un coffret qui s'appelle 20 ans et 111 titres et qui réunit 6 CD passés. Donc il y a 3 CD qui sont consacrés à des poètes. Un sur Robert Desnos, donc, qui est un des plus anciens, qui avait eu d'ailleurs en son temps les 4 F de Télérama. Qui s'appelle « Vous avez le bonjour de Robert Desnos ». Ensuite, il y a un CD qui a été consacré à Dubillard, qui a été extrait d'un spectacle.
Dubillard,
voilà, ouais. Un spectacle que j'avais monté qui s'appelait « Cabaret Dubillard » avec Ariane Dubillard, d'ailleurs sa fille, et Roch Avet, un pianiste. Donc ça avait donné un disque entier, d'ailleurs dans lequel Dubillard avait donné sa voix pour 2 titres. Et puis beaucoup de musiciens, beaucoup d'interprètes différents. Et puis un troisième CD qui est consacré à Brassens, qui est la photo un petit peu d'un spectacle que j'ai monté il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « Chez Jeanne », et qui racontait la jeunesse de Brassens, que peu de gens connaissent. Donc ce disque est fait d'une alternance donc de courts textes qui racontent des épisodes et de chansons, évidemment, de Brassens.
Une jeunesse qui raconte notamment dans la chanson pour l'Auvergnat.
Voilà, oui, aussi dans les quatre bacheliers. Enfin, vous voyez, finalement, Brassens s'est assez peu exprimé sur sa propre vie. Il a beaucoup de chansons qui sont des échos d'épisodes. Et donc, j'avais monté un spectacle comme ça en racontant des tas d'anecdotes depuis du gamin de 7 jusqu'au moment. Et le spectacle s'arrêtait en 52, c'est-à-dire au moment où Brassens commence à chanter en public. Voilà. Et donc, il y a aussi 3 disques, évidemment, dans ce coffret qui sont mes propres chansons, quoi, les 3 derniers albums que j'avais fait. Mais je n'avais plus fait d'album d'auteur depuis 10 ans. Donc, ce prochain-là qui sort, mai 68, est une nouveauté à double titre, quoi.
Alors, puisque tu l'évoques, hein, on va écouter un autre extrait de mai 68.
Dire 2 mots avant, parce que c'est en fait évidemment, je ne peux pas avec un titre pareil ne pas évoquer un petit peu ce qu'on a appelé les événements, mais cette chanson est assez loin de ça. Mais par contre, elle évoque le désir d'ailleurs et le désir de fuir la France qui a touché beaucoup d'entre nous à cette époque-là. Voilà, et puis simplement pour la compréhension de la chanson, il faut savoir que Coquet est le nom en tahitien de Gauguin. Et c'est une chanson qui est faite d'ailleurs avec quelques expressions de Gauguin lui-même.
Donc, Coquet Gauguin, extrait de mai 68.
Quand on a passé son enfance au Pérou, il vous en reste des couleurs. Votre père fuyait la France et ses verrous, mort à l'arrivée, grande douleur. L'orphelin de Lima a pris sa langue dans le palais des alguazils. Mieux vaut un grand bateau qui tangue et finir en oiseau des îles. Vous aviez connu la vie bourgeoise, les cotes en bourse et tout perdu. Pour peindre en feu les toits d'ardoise de Pont-Aven ou du Pouldu. Oh, Coquet, 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 Coquet Gauguin, qui a damné tous les tannés, c'est l'appât du gain. Ouh, papa ou tout papa ou. Où s'en va l'esprit des morts, s'en va où? Adieu à l'Europe, à ses vieux parapets. Adieu Vincent qui te coupait l'oreille. Cassait tout son stock de civilisés. Saoulait ses pinceaux sous le soleil. Dans la cabane en bois vient une femme. Les seins cuivrés de majesté. Sauvagerie c'est bon pour l'âme. Gauguin laissez-vous dévaster. Belle antilope, un peu inquiète, la fleur écoute son parfum. Elle connaît l'art de la tempête, se faire croquer, nourrir la faim. Ouh, coquet, 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 coquet Gauguin. Il y a d'années, tous les tannés, c'est l'appât du gain. Oh, tout papa ou tout papa ou. Où s'en va l'esprit des morts, s'en va où?
Gauguin de et par Michel Arbatz, hein, donc un extrait d'un album à paraître le 22 novembre,
voilà,
c'est bien enfin cela.
Bon, 22 ou 23.
Théorique,
enfin,
date
voilà,
théorique, c'est... bon, on espère qu'il n'y aura pas de retard.
Oui, oui, non, il n'y en a pas, je... c'est sûr. C'est
un
sûr.
Album qui s'intitule oui. Mai 68, M-E-S.
Mai 68, voilà.
Voilà mai oui. 68, hein.
Oui, il faut...
Il y en a eu plusieurs.
Ouais.
Alors, une demi-heure, c'est trop court, on arrive déjà au bout de l'émission. Donc, rappelez ce disque qui va sortir bientôt.
Voilà, qui est en souscription.
On peut aussi, qui est en souscription, aller voir sur le site michelarbatz.com.
Et on
pourrait aussi trouver le coffret à prix modique, défiant toute concurrence, avec de quoi se régaler pendant des heures.
Avec
à,
six
à
CD.
Écouter, avec les 6 CD.
Et oui, paru. Je ne peux pas ne pas citer mon camarade et complice Olivier Roman Garcia qui signe la plupart des arrangements de ce disque là qu'on vient d'entendre.
La guitare.
À ouais. La guitare, au bouzouki, enfin qui est une sorte de magicien du son aussi, enfin qui
polyinstrumentiste,
qui aussi, polyinstrumentiste et aussi qui a mixé le disque. C'est une part très très importante en fait de la qualité.
Bien
je
sûr,
pense.
Bien voilà. Sûr. Oui, oui. Voilà toutes ces choses là et puis donc le livre donc. On a parlé, hein, le dernier sorti, une correspondance avec Michel Monory, un ancien professeur de latin de Michel Arbatz.
De lettres
donc,
aussi.
C'est les deux
de...
Michel.
Ouais, ouais, ouais.
C'est le cœur qui est grec et c'est édité par Le Temps qu'il fait, qui est devenu tant d'éditeurs réguliers.
Oui, depuis les 4-5 derniers livres, c'est avec lui que je les ai faits. Voilà, et c'est un très bon éditeur. Enfin, c'est un éditeur dont je salue le travail sur... Il a publié plus de 650 titres depuis 30 ans.
Bien, merci beaucoup Michel de ces quelques minutes que tu as pu nous consacrer.
Merci
à Rongemaille à la technique et bonne lecture à tous nos auditeurs jusqu'à la semaine prochaine.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.